Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Allez.
Hello tout le monde. Bienvenue dans le fauteuil. Aujourd'hui, je prends la place d'Alain Mattei. Alors, je ne sais pas si vous y avez cru. Hein. J'ai dit hello. Même moi, je n'y croyais pas trop. Mais je prends la place d'Alain Mattei sur une heure. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter. Alain Mattei ne sera pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il fera une petite apparition. Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Ceux qui l'ont vu le savent. Il a fait le marathon aujourd'hui. Il ne pouvait pas être disponible. Du coup, je prends sa place. Bon, je vous l'avais dit dans le podcast. Ils m'ont donné les clés du camion, je vais plus ressortir maintenant. Je prends la place du fauteuil. Bon, voilà. Bon, écoutez, on est ensemble une heure, hein, vous avez l'habitude, jusqu'à 19h, jusqu'au début du Red Zone. C'est une émission en partenariat avec Unibet, forcément. Vous en avez l'habitude aussi, ça fait quelques années, 5 ans, je crois que j'ai entendu Alain le dire la semaine dernière. J'ai fait mes devoirs, j'ai regardé le fauteuil de la semaine dernière. Donc, 5 ans pour Unibet, le partenaire de l'émission, le site de Paris en ligne, hein, sur les meilleures cotes de la NFL. Bon. Je le dis une fois au début de cette émission, les paris, c'est comme l'alcool, jamais au volant. Et avec modération surtout. Bon, peut-être aussi qu'on aura l'apparition de Greg. Je ne sais pas encore. C'est suspense, hein, cette émission. C'est du suspense, c'est des surprises. On va voir, il y a Camille qui est là pour que tout se passe bien. Donc, je suis rassuré, ça, c'est sûr. Bon, le sommaire de l'émission, pareil, vous en avez l'habitude. Vous avez vu peut-être le titre, le thème du jour, c'est les coachs en danger. J'ai fait une petite liste avec des catégories, vous allez voir. Forcément, vos questions. Le joueur mystère aussi, j'ai quelques indices donnés par le boss, je pourrais vous donner ça. Je ne pourrais pas donner le gagnant, hein. J'ai les clés du camion, je n'ai pas le clé du coffre encore. Hein. Ensuite, on aura le débrief du Thursday Night Football, les Panthers contre les Texans. Je regarde mes petites fiches. Les pronos du jour, je suis très bon en pronos, vous avez compris. Les meilleures cotes, Unibet. Et toujours vos questions, hein. Toutes les missions, vos questions. J'ai le chat qui est juste à côté. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Clément Vernetuy. Bonjour à Braco Pascal. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde pour ma première. Je suis un petit peu impressionné. Hein. Bonjour à Gus. Bonjour à Géant Bleu. Rafa Malka. Bonjour à France Max. Ça a été des beaux pseudos, messieurs, dames. Bonjour à Babtou. Bonjour à Nicolas Guillou. On a pu faire un petit effort, Nicolas Guillou, sur le pseudo. Bonjour à Orlin, à Lana. Bon, salut tout le monde. Je vais essayer de regarder un petit peu vos questions et puis on va essayer d'y répondre. Comme je vous disais, j'espère que Greg sera peut-être là pour lui poser certaines questions. Est-ce que, les amis, on lui demandera s'il est capable de citer les 32 tackles gauche titulaires en NFL. Voilà, je suis sûr qu'il en est capable en plus. On va essayer de le piéger. Voilà. Bon, alors je regarde un petit peu vos questions. Lucas, quelle est la team que tu supportes? Il y a un indice dans votre écran. Voilà, je ne vais pas la dire parce que je suis chargé d'être un petit peu, on va dire, objectif. Donc, je ne vais pas vous dire, mais il y a un indice qui s'est glissé dans votre écran. Voilà. Appelez le 17, l'ancien avis de recherche à la Mattei a disparu. Alors, il n'a pas disparu. Voilà, il est en bonne santé. On l'a retrouvé. Pas d'appel de recherche, pas d'avis, pas d'appel lancé. Voilà. On sait où il est. Tout va bien pour Alain Mattei. Il a fini le marathon quand même. Donc, j'espère que si on l'a aujourd'hui, vous allez lui faire un petit standing ovation. Encore une fois, je ne sais pas. Sinon, ça sera moi pendant une heure. J'en suis désolé. Et Camille qui nous a réservé une petite surprise. Je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas, moi, je l'entends. Quel champion. Je ne vous dirai pas son temps parce qu'il est un peu timide de dire qu'il a fait 2h12. Mais quand même. Alain Mattei, c'était quelque chose. Voilà, vous voyez cette photo. Bon, voilà, il faudra faire sans lui. Vous avez compris, je suis quand même beaucoup plus joufflu que lui, hein, on va dire ça, pour vexer personne. Bon, alors des questions. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Je suis là pour y répondre. La team des tricheurs. Écoute, JNU. Il a fait où le marathon? Il a fait part chez lui, à Rouen, vous l'avez vu, vous l'avez entendu la semaine dernière, il a dit je ne spoil pas. Belle photo, oui, Camille, toujours plein de surprises. Camille qui permet à ce que ce fauteuil se passe très bien. Une légende, bonjour, salut Patrick Mahomes, le vrai en plus, quel je suis ravi. 4h29, oui, c'était écrit dans le tweet. Je pouvais pas, j'ai essayé de mentir, dire qu'il a fait 2h12, il a fait 4h29. Incroyable quand même, on se rappelle que c'est 42 km un marathon. Quel champion cet Alain, j'étais pas au courant qu'il faisait le marathon. Eh ouais, Schweppes. Marathon de Berlin, non, c'était pas le. C'est à côté, hein. C'est à côté. Rouen-Berlin, si on plie la carte, c'est juste à côté. Bon, est-ce que pâté de campagne ou rillette pour 19h? Un peu des deux, on va dire, un peu des deux. Un peu des deux, sinon les passes favoris ce soir. Une première question football. 18h05, première question football. Favori. Alors, petit spoiler, je les ai mis dans mes pronos. Donc, favori, je ne sais pas, mais je les ai mis dans mes pronos. Je pense à domicile. Alors que, messieurs, dames, nous sommes en présence de Greg qui se connecte. J'espère qu'il va pouvoir participer à ce fauteuil. Ça nous permettra d'enchaîner sur une petite salve de questions. Si vous avez des questions à Greg, il devra pas rester longtemps, certainement. Donc, profitons-en. On va voir si Greg arrive à se connecter. Les Raiders pour un 3-0. Et je pense que les Raiders pour un 3-0, on voit que Greg est en train de se connecter. Les Raiders, alors j'ai mes petites fiches là, les Raiders, que je me rappelle, les Raiders, ça joue à Miami. Greg, salut Greg.
Est-ce que ça
va bien? Ça va bien et toi?
Ouais, j'ai réussi à trouver une petite planque. A priori, je t'entends bien, j'espère que le réseau restera sympa.
Écoute, c'est parfait. Écoute, je leur ai dit que tu serais là, que tu pourrais répondre à toutes les questions. Il y en a déjà un qui a demandé si tu pouvais citer tous les tackles droits de la NFL titulaire. Bon, c'est peut-être
malheureusement, je vais citer celui d'Atlanta et j'espère que je n'aurai pas à le citer très très longtemps. Kellen McGarry en l'occurrence, mais non, je vais éviter.
Très bien. Alors, traitez bien les gens, moi je vais dormir. Je pense que Alain Mattei a tué le suspense, à mon avis. Il ne sera pas là ce soir, mais on est en présence de Greg, donc. Greg, qu'est-ce qu'il a fait, Matt Ryan? Demande France Max. Qu'est-ce qu'il a fait, Matt Ryan?
Ça, c'est le sujet.
Ouais.
Par rapport à cette saison, j'imagine qu'on pose la
question. J'ai l'impression que c'est une question ouverte. Mais partant sur cette saison, en effet, on rappelle les Falcons 0-2. Ça a été un peu compliqué le premier match, un tout petit peu mieux le deuxième match, mais c'est pas encore ça.
Oui, non, je vais pas faire très très long là-dessus parce que c'est pas le sujet le plus passionnant depuis le début de la saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Gros problème de ligne offensive, une défense qui est en pleine reconstruction, ça on le découvre pas. Mais oui, O-line où il y a aussi beaucoup beaucoup de jeunes et encore une fois, je trouve qu'on a cassé beaucoup de sucre sur le dos de Matt Ryan pendant toute sa carrière. Alors que je pense que c'était un peu comme Philip Rivers, c'était peut-être un joueur qui avait besoin. Un peu plus que d'autres quarterbacks d'un entourage un minimum correct. On a vu que notamment en 2016, quand il l'a eu, ça a quand même été assez prometteur. Après là, cette année, clairement, il y a vraiment très très peu de choses autour de lui et une O-line absolument catastrophique. C'est ces derniers mois à Atlanta. Je pense que j'apprends pas une nouvelle sensationnelle à tout le monde, mais ça va être une saison longue, je pense, et pour Matt Ryan et pour les Falcons.
Il joue les Giants ce week-end là dans quelques minutes. Est-ce que c'est pas un peu le dimanche où il faut absolument gagner? Il y a pas beaucoup plus faible que les Giants, on va dire, même s'ils font un bon match la semaine dernière. Faudrait gagner ce week-end quand même pour prendre un peu de confiance. Sinon, ça va être très très compliqué.
Oui, en tout cas, c'est une équipe parmi les formations qu'ils vont retrouver sur leur calendrier, c'est une des équipes où potentiellement il y aurait la place. Après, comme tu le disais, on a vu la semaine dernière que les Giants, il y a cette première sortie très très compliquée contre Denver où la différence de niveau était quand même assez préoccupante. Là, en l'occurrence, à Washington, ils se sont bien repris, même si par exemple on a pu en tout cas être assez étonné de la prestation d'un Tyler Heinicke, surtout face à cette défense qui était quand même extrêmement intimidante l'an dernier. Mais ouais, sur le papier, très franchement, sur ce match-là, je te dirais clairement pas qu'Atlanta est favori. Mais ça peut être un match qui tourne d'un côté ou de l'autre. Mais les Giants ont l'air à montrer un peu plus de choses sur ces deux premières semaines de saison régulière.
Une petite question aussi liée aux Giants, liée aux Falcons, un ancien ami à toi. On demande qu'est-ce que tu penses du début de saison de Julio Jones. Je vais retrouver qui a posé cette question, mais je l'ai vu passer dans le chat. Qu'est-ce que tu penses de ces deux premiers matchs avec les Titans pour le receveur que tu connais bien?
C'est bien. Enfin, notamment sa dernière sortie face aux Seahawks était très très bonne. Ça peut le mettre en confiance, en plus que ça coïncide avec la première victoire de Tennessee depuis son arrivée du côté de Nashville. Après, très franchement, voilà, le contexte a été celui qu'il a été pendant l'intersaison entre Julio Jones et Atlanta. Voilà, il a émis le souhait de partir. Je pense que on peut pas forcément reprocher à un joueur qui a autant apporté à une franchise de vouloir passer à autre chose en voyant qu'il y a une énième amorce de reconstruction qui arrive. Je pense qu'au niveau de la manière, ça laisse peut-être un peu plus à désirer, mais là encore une fois, je pense que Atlanta avait pas forcément besoin du gros salaire de Julio Jones pour reconstruire. Julio Jones savait qu'a priori avec Atlanta, c'était pas là où il avait le plus de chances d'atteindre les playoffs et donc potentiellement le titre à la fin de la saison. Donc voilà, après moi, ce que je lui souhaite surtout en l'occurrence, c'est de rester en forme. Et on a vu qu'en 2020, c'était loin d'être le cas. Voilà, ça reste un spécimen physique, mais ça reste aussi un joueur qui reste un petit peu fragile, notamment au niveau du bas du corps. Donc ça va être à surveiller tout au long de cette saison pour Tennessee.
Il fait un bon match la semaine dernière. On l'a presque même vu marquer un touchdown dans la red zone. Alors
Oui,
ça,
ça
c'est
aurait pu
incroyable.
tourner d'un côté ou de l'autre, ouais, tout
Ouais,
à
ça,
fait.
c'est
Ouais.
incroyable parce que c'est vrai qu'on le sait, on va dire le tout petit défaut de Julio Jones, c'était la red zone, ses 20 dernières yards. Voilà, il a toujours été incroyable sur le reste. Il avait peut-être ce petit défaut. On a été à deux doigts de le voir marquer un touchdown. Je me suis dit, là, ça y est, on a retrouvé un Julio Jones incroyable. Bon, ça s'est pas concrétisé, mais on n'était pas loin. Mais ouais, c'est vrai que. Voilà, Atlanta n'en avait pas besoin, les Titans en avaient plutôt besoin. Ils sont sur une année
Oui,
où ils essayent de gagner.
on va dire que c'est un deal gagnant-gagnant sur le moyen terme, plus ou moins, sachant qu'Atlanta a récupéré un deuxième tour. Après, oui, non, franchement, je ne suis pas particulièrement amer, pardon, envers Julio Jones, si c'était la question, par exemple.
C'était Thorsten 1984 qui posait la question. Voilà, je voulais retrouver le pseudo, je l'ai retrouvé. Nicolas Olivier qui nous dit que Lucas a pris 20 kilos par rapport à 2017. Alors ça, ce n'est pas très gentil parce que ce n'est pas vraiment 20 kilos. C'est un peu moins, hein, donc ce n'est pas très gentil. Écoutez, on n'a pas tous la foi pour faire un marathon. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il pense quoi, Greg, de Dab Quinn à Dallas? Je sais pas, hein, on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, mais on pose la question Dab Quinn à Dallas. Voilà, je pense qu'on
C'est une
parle de.
spéciale sur les anciens, en tout cas,
Ben ouais, je
apparemment.
pense, voilà. On parle donc bien de Dan Quinn, hein, l'ancien entraîneur des Falcons. Je pense que voilà, ils savent que tu n'es pas là longtemps sur ce fauteuil. Ils veulent profiter pour voir tout ce que tu penses des Falcons et de tous ceux qui sont partis des Falcons. Voilà, je t'en ai un peu parlé, mais un petit mot sur Dan Quinn à Dallas en ce moment.
Très rapidement, j'ai jamais remis en cause ses capacités en tant que coordinateur défensif unique, hein. Son gros problème à Atlanta, c'était qu'il cumulait pas mal de casquettes et je pense que ouais, c'est un peu le défaut qu'ont certains head coach en NFL, c'est qu'ils veulent absolument tout gérer et des fois c'est clairement pas réalisable, surtout avec un effectif qui peut paraître assez court sur certains secteurs. Après, voilà, il a déjà montré à Seattle, même si forcément là en termes de qualité d'effectif, il y avait déjà ce qu'il fallait sur le papier. Ça avait déjà profité à Gus Bradley quelques années avant dans sa promotion comme head coach des Jaguars. Mais oui, on découvre pas que c'est un coordinateur défensif chevronné, capable notamment de faire briller ses defensive backs. Et on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont capables de se développer un peu plus cette saison. Voilà, le petit bémol, je dirais, c'est cette défense en zone des fois qui fait que les défenseurs se retrouvent un peu le cul entre deux chaises. Mais ouais, là très clairement, je pense que Dallas peut avoir cette capacité à progresser. Encore une fois, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils pourront difficilement faire pire que l'an dernier. Donc déjà, au moins sur le papier, Dan Quinn, il arrivait avec un petit peu moins de pression dans le Texas. Mais oui, il y a quand même une base intéressante, une jeunesse assez intéressante et je pense du potentiel pour faire de cette équipe. Pour rendre en tout cas cette défense suffisamment intéressante pour permettre à Dallas de valider cette première place dans la division NFC Est, que beaucoup en tout cas leur prédisent à l'heure où on se parle.
Dan Quinn, qui est le coordinateur de Mike McCarthy, hein, à Dallas. Et ça me permet de faire le lien sur le thème du jour avec les entraîneurs en danger. Vous allez voir qu'il n'est pas forcément en danger, mais il n'est pas forcément en grande sécurité. On en parlera un petit peu plus tard. On va passer au débrief du match de jeudi. Greg, c'est le fauteuil. Si tu dois partir, voilà, tu dis, tu n'hésites pas, tu viens, tu pars, tu es chez toi.
J'ai encore 5 minutes. J'ai
Et
prévenu
écoute,
que s'il y avait un souci, on peut venir me chercher à tout moment.
il n'y a pas de
Et
souci.
je suis là pendant au moins 5 minutes.
C'est le fauteuil, mes amis. Vous rentrez, vous sortez, vous faites comme vous voulez. On est là jusqu'à 19h. Juste avant de passer au débrief, je vais vous donner un indice sur le joueur mystère. Comme chaque semaine, hein, Alain qui donne un joueur mystère, il n'a pas été trouvé la semaine dernière. Celui qui trouve, il a des free bets sur Unibet, le partenaire de l'émission. Je ne sais plus combien exactement, je crois, hein, parce qu'ils nous ont ils m'ont donné les clés du camion, ils ne m'ont pas donné les clés du coffre encore. Donc, je ne sais pas combien exactement, mais n'hésitez pas. Je vous rappelle les indices de la semaine dernière. C'était un titre de champion, un titre de All Pro. Je fais tout comme Alain, hein, j'ai des consignes. Hein. Il avait fait comme ça, je fais comme ça. Et ensuite, c'était le chiffre 6. Voilà. Le nouvel indice, il y en aura un deuxième dans l'émission, c'est Karim Abdul-Jabbar. Voilà. Le mail pour répondre au joueur mystère, moi, je ne le connais pas. Greg, il le connaît parce qu'il a trouvé direct. Voilà. C'est concours at... Greg, quand même. C'est concours at touchdownactu.com. Voilà. Vous envoyez un mail avec le nom du joueur mystère, votre pseudo Unibet pour qu'on puisse vous créditer. Si vous avez trouvé, voilà, n'hésitez pas, il y aura un autre indice. Bon, Greg, on passe au Thursday Night Football, cette victoire des Panthers, 24-9 face aux Texans. On va commencer par la fin, la blessure de McCaffrey. On se projette un petit peu pour les Panthers. On sait qu'il va être absent quelques semaines, on parle de 3, peut-être un peu plus. Blessure aux ischio-jambiers, blessure musculaire, on sait que c'est jamais très bon, surtout pour un quarterback. D'ailleurs, il y avait cette image, il a des énormes cuisses, Christian McCaffrey. On parle souvent des cuisses de Saquon Barkley, mais celles de McCaffrey, elles sont pas ridicules non plus, forcément. Avec une masse musculaire comme ça, on a tendance à se blesser. McCaffrey se blesse souvent. Et là, il est de nouveau absent. Les Panthers sont à 3-0, mais ce n'est pas forcément un bon signe quand même.
Bah, en fait, si tu veux, ce qui fait un petit peu peur, je pense, du côté de Charlotte à l'heure actuelle, c'est qu'on se retrouve un peu avec le même stigmate que l'an dernier. Parce que je n'ai pas dans l'idée que l'an passé, même s'ils ont ajouté du talent pendant la dernière intersaison, globalement, l'effectif n'était pas si catastrophique que ça, en tout cas pour un groupe qui était en reconstruction. Il y a des jeunes défenseurs extrêmement prometteurs. Il y a là encore un quarterback qu'on présente sur le papier comme extrêmement revanchard. Puisque Teddy Bridgewater, en début de saison dernière, avait l'air de pas trop mal tourner non plus. Alors certes, ils n'ont pas commencé avec une tige de 3-0, mais on a vu ce qui leur a beaucoup posé problème, c'est ce déficit d'expérience et de forme physique sur l'ensemble de l'exercice, et le fait de perdre un joueur comme Christian McCaffrey, qui non seulement est précieux dans son rôle de running back, mais dans son rôle de couteau suisse tout court, hein, dans sa capacité à être dangereux dans plusieurs secteurs, ça peut en effet être assez problématique. L'avantage pour les Panthers, si tu me permets d'anticiper un petit peu sur le reste du match, c'est que voilà, je l'ai dit, il y a eu une intersaison assez intéressante avec notamment quelques rookies offensifs qui ont été trouvés. Et là, en l'occurrence, sur ce match contre Houston, par exemple, ils sont quand même sortis du chapeau.
Oui, alors voilà, c'est ça, ils marquent 24 points, ils sont sortis du chapeau, certains rookies offensifs. En parlant de rookies, il y a Jesse Horn qui s'est blessé du côté de la défense aussi. On parle surtout de McCaffrey, mais, on a aussi cette blessure qui peut faire mal du côté du backfield défensif. Mais on va rester sur l'attaque. Tu disais que voilà, il n'y avait pas énormément de changements. Il y a ces rookies et il y a aussi un changement de quarterback. Tu parlais de Bridgewater. Maintenant, désormais, c'est Darnold qui gère cette attaque avec ses rookies. Est-ce que Darnold est capable de faire mieux que Bridgewater de ce que tu as vu? Je rappelle sa stat, en tout cas sa ligne de stat jeudi soir, c'était 23 sur 34, 304 yards, donc plus de 300 yards et 2 touchdowns à la course. Voilà, on en parle souvent. Maintenant, il va devoir faire sans son running back. Il a ses joueurs offensifs, il a DJ Moore, il a ses rookies offensifs. Est-ce qu'il va être capable de porter un peu plus, un peu mieux cette équipe que l'a fait Bridgewater l'année dernière, ou on peut s'attendre à exactement le même schéma que l'an dernier?
En fait, c'est toujours compliqué de s'avancer sur ces joueurs-là parce qu'on sent que dans 15 jours, on va devoir balancer la porte à la tronche. Mais non, très franchement, ce qui est intéressant, je vais pas repartir dans l'éternel gaze bashing, etc. Mais c'est vrai que mine de rien, sur le match notamment contre Houston, on voit quand même des choses qui nous ont amené à penser que Sam Darnold pouvait être un joueur, pas forcément un joueur élite, pas forcément le joueur qui va permettre de faire gagner 5 ou 6 bagues à sa franchise, hein, en exagérant volontairement le trait, mais tout simplement un joueur capable de gagner les matchs et de porter l'attaque sur ses épaules. Et là, en l'occurrence, c'est symbolisé encore plus en effet par un jeu au sol capable autant briller que ces dernières semaines, avec notamment cette sortie de Christian McCaffrey, c'est que Sam Darnold, globalement, a dû prendre ses responsabilités sur ce match-là. Alors, on dira en face, c'est que Houston, où en effet, il y a des gros points d'interrogation, mais on l'avait dit sur les deux premières semaines de saison régulière, ça a clairement pas été l'équipe la plus ridicule de la Ligue, loin de là. Et pourtant, on a senti vraiment que les Panthers ont pris ont tenu le bon bout d'entrée offensivement, pas toujours concrétisé par des touchdowns, mais en tout cas, on a su faire bouger les chaînes. Et on a vu notamment cette fameuse capacité à lancer efficacement en mouvement de la part de Darnold, qui voilà peut clairement être un atout supplémentaire par rapport à un Bridgewater qui était lui purement un game manager et à qui c'est difficile de demander d'en faire énormément plus quoi. Voilà, cette capacité, cette mobilité supplémentaire, je le répète, cette capacité à lancer en scramblant, c'est des attributs qu'ont fait de Sam Darnold, qu'ont fait de lui le troisième choix de la draft. Donc, en l'occurrence, il y a moyen d'en tirer un petit peu plus, je pense, que Bridgewater. Je le répète en plus avec une fiche qui est meilleure pour commencer l'exercice qu'en 2020. Mais ouais, va falloir tenir compte de pas mal de choses. Va falloir espérer que Sam Darnold ne tombe pas dans ses travers mentaux et espérer encore une fois que autour de lui, le groupe tienne le choc moralement et physiquement.
Oui, alors on a Jean-Baptiste Barbary qui nous dit « Darnold a fait mieux en trois matchs avec les Panthers qu'en trois saisons avec les Jets ». C'est bien résumé. Maintenant, il va falloir attendre un petit peu une confirmation. Tu le disais, si je peux me permettre de donner mon avis sur Darnold aussi. L'avantage qu'il a, en tout cas le gros point positif pour lui depuis ses trois premiers matchs, c'est qu'il fait peu d'erreurs. Et on le sait, Darnold, il était aussi connu pour ce genre de choses du côté de New York, il faisait pas mal d'erreurs. Maintenant, il a moins McCaffrey, il va peut-être avoir un petit peu plus de pression, mais s'il continue à faire toujours aussi peu d'erreurs, il laissera son équipe dans le match. Alors après, la contrepartie, c'est qu'on l'a vu sur ce match, il a loupé quelques fois DJ Moore, qui était seul parfois, ou parfois qui était complètement libre pour avoir un touchdown, notamment en profondeur. Il a loupé une ou deux fois. Ce sont le genre d'action qu'il ne faut pas vraiment louper, mais tant qu'il évite de faire des erreurs, tant qu'il évite les interceptions qui sont très coûteuses, les pertes de balles, ça pourrait être bien, surtout que, et ça me permet de faire la transition, il y a une grosse défense du côté des Panthers. Alors, ce n'était que les Texans en face, mais on le voit depuis trois matchs. La défense des Panthers, c'est de retour. L'année dernière, elle était, on parlait des différences avec l'année dernière, elle était un petit peu inconstante. Là, elle semble avoir pris son rôle à cœur, elle semble avoir trouvé son rythme de croisière. Alors oui, c'était que les Texans, mais encore un super match de la défense de Matt Rhule.
Oui, bah c'est voilà, c'est cette arrivée à maturité. Alors, encore une fois, il y a des joueurs qui sont encore très jeunes, hein, mais oui, on voit en tout cas, je pense à un profil par exemple comme Brian Burns qui devient vraiment la principale menace sur le pass rush, ce qu'on en attendait clairement quand il est sorti au premier tour de la draft en provenance de Florida State. Et en effet, des joueurs avec un peu plus d'expérience et qu'un peu plus de connaissance du système, typiquement l'apport d'un Hassan Reddick avec un Chuck Thompson, ou si je reprends l'exemple d'Hassan Reddick, la capacité avec un Jeremy Sheen à avoir des joueurs qui sont capables d'évoluer dans n'importe quelle situation et d'être dangereux dans n'importe quelle partie du terrain, de blitzer quand c'est nécessaire de le faire, c'est forcément un atout non négligeable. Ça rassure pas encore totalement sur les capacités de Matt Rhule à vraiment pleinement assurer le coup jusqu'à la fin de la saison, ou en tout cas voilà, à montrer qu'il a vraiment pris pleinement connaissance des difficultés de la NFL aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit que défensivement, et ce, depuis son arrivée du côté de Carolina, ça a l'air au point et globalement, il y a un bon melting pot qui se met en place entre cette jeunesse aux dents longues et cette expérience avec d'autres joueurs. Je pense à un Daquan Jones, par exemple, le nostacle de Tennessee, dont peu de personnes ont parlé, pardon, pendant l'intersaison, mais qui fait un bien fou, je pense, de par son vécu et de par sa capacité. Je crois qu'il a prouvé un fumble depuis le début de la saison, de mémoire, hein. Il me semble en avoir vu un contre les Saints, par exemple. Voilà, c'est des joueurs précieux et en l'occurrence, ça permet d'avoir un bon mélange, ne serait-ce que dans le front seven. J'ai pas cité le backfield, mais là encore une fois, voilà, c'est une défense cohérente globalement.
Alors on a Orline, à quel niveau vous placez la ligne défensive des Panthers? Ben, je pense que Greg vient d'y répondre assez longuement. On a aussi Rafa Malka, l'adversité n'a pas été monstrueuse, loin de là, sur les trois premiers matchs. Oui, alors oui, certes, les Panthers, on le dit, on le répète, et c'est un petit peu, je fais un petit peu le lien avec les Broncos qui jouent les Jets, je crois, cette semaine, qui peuvent arriver à 3-0 et qui sont pas forcément parmi les meilleures équipes de la Ligue, mais qui restent invaincues, alors qu'il y a d'autres équipes qui sont peut-être plus fortes et qui ne le sont pas. Mais on le sait, une saison NFL, ça se construit aussi beaucoup avec de la confiance. Et quand on commence une saison à 3-0, on prend confiance et peu importe l'adversité, 3-0, les trois victoires, elles sont là. Et peu importe l'adversité, parce qu'après, derrière, eh bien, on va peut-être aborder des matchs qui, sur le papier, auraient été plus difficiles si on les abordait à 1-2, à 0-3. Et on va peut-être faire des coups, être sur une dynamique. Et ça marche aussi d'ailleurs à l'inverse. À l'inverse, moi, je pense par exemple aux Vikings qui font un bon début de saison au final, qui ne font pas un mauvais début de saison, mais qui se retrouvent à 0-2. Les Vikings, c'est pas forcément une mauvaise équipe, mais c'est une équipe qui, du coup, perd de la confiance, qui perd des matchs, et du coup, qui pourrait être dans une spirale négative là où et aborder des matchs avec plus de difficultés, là où, par exemple, les Panthers pourraient l'aborder avec plus de facilité. Et donc, ça, c'est certes, l'adversité n'était pas forcément top, mais ça, c'est quelque chose de très important dans une saison NFL, surtout au début. Alors après, on va parler justement des Texans. Voilà, 9 points, on a vu David Mills, je vais donner sa ligne de stats, 19 sur 28, 168 yards, un touchdown. Voilà, il a ce beau drive en toute fin de première mi-temps, avec notamment un Brandin Cooks qui lui a fait beaucoup de bien. Mais en dehors de ça, et notamment cette attaque des Texans, ça, c'est compliqué. Ils sont accrocheurs, mais c'est compliqué. Ça risque d'être un petit peu compliqué si David Mills ne fait pas un peu mieux, si David Mills ne progresse pas un petit peu plus, non ?
Ouais, en plus sur ce match-là, je ne sais pas s'ils ont été vraiment aidés par le play call. En fait, je ne sais pas si Houston, de par le scénario, de par le fait de vouloir peut-être mettre un peu en confiance David Mills, justement, vu la situation actuelle, j'ai trouvé quand même assez étonnant qu'on privilégie le jeu à la passe au jeu de course, d'un point de vue appel de jeu. Alors certes, on a vu qu'un Philippe Lindsay, par exemple, sur le porté de ballon qu'il a eu, n'a pas eu un impact dingue. Et que globalement, le run stop de Carolina a fait le taf, mais ils ont peut-être pas suffisamment été sollicités à mon goût. Et même si la partie de Davis Mills, en l'occurrence, vu le contexte qui est celui que connaît Houston actuellement, est pas forcément hyper favorable pour démarrer. Voilà, ça reste quand même, voilà, c'est sûr que c'est pas les meilleurs ingrédients pour essayer de semer un peu plus le doute dans la tête des joueurs des Panthers, sachant qu'en plus, voilà, tu joues à la maison. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen, éventuellement, d'essayer de récupérer un momentum à un moment donné. Ça a été extrêmement, ouais. Ça, autant sur le match face aux Jaguars, forcément, il a été globalement maîtrisé de bout en bout. Le match face à Cleveland, ils les ont fait douter au moins une mi-temps. Là, c'est vrai que j'ai pas senti énormément d'entrain du côté de cette équipe de Houston. Ils ont traversé un peu ce Thursday Night, à mon sens. Je veux pas être trop sévère encore une fois parce que voilà, le contexte est assez particulier, mais ouais, c'est pour ça que je pense que les décisions du coaching staff les ont pas forcément aidés en ce sens, justement à les reconcerner, les remettre dans le bon sens. Après voilà, je le redis, ça reste une partie assez encourageante pour David Smith, une bonne connexion notamment avec Brandin Cooks. Donc voilà, ça, là aussi, j'en parlais en début de saison, mais le groupe est pas infamant en soi d'un point de vue qualitatif. C'est juste qu'il me paraît un peu trop court et que forcément, bah, avec notamment les choix de draft qui ont dû être laissés de côté par rapport à l'ancien régime, bah, faut reconstruire petit à petit et ça va prendre forcément du temps. Et face à une équipe comme Carolina, ou comme tu le disais, là au moins la confiance a l'air d'être là. Juste pour une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais sur Carolina, c'est sûr que le calendrier n'est pas démentiel, mais tu prends l'exemple d'un match contre les Saints. Je sais plus ce qu'ils font l'année dernière, il me semble qu'ils les accrochent deux fois et qu'ils perdent deux fois. Là, non seulement tu les bats, mais tu les bats avec la manière. Alors, c'est sûr qu'on pourra dire à raison que la semaine des Saints a été très particulière avec notamment l'absence des coachs liés à la Covid, etc. Mais en attendant, voilà, Carolina a fait un match appliqué de bout en bout, s'est pas laissé l'occasion de se remettre dans le doute et de se retrouver avec des spectres de la saison dernière. Et là, en l'occurrence, ça leur permet d'être pleinement en confiance et d'avoir réussi à gérer cette escale texane avec sérénité, au contraire justement de cette équipe de Houston où voilà, forcément il y aura encore pas mal de doutes à l'image de l'intégration de leur quarterback à l'heure actuelle.
Et pour revenir sur Carolina, en effet, l'année dernière, défaite à la Nouvelle-Orléans 27-24 et ensuite défaite lors du dernier match de la saison régulière 33-7. Donc en effet, alors c'était pas forcément la même équipe des Saints, mais en effet, voilà, ils ont fait le travail, ils l'ont bien fait et ils arrivent avec la confiance. On demande dans le chat, en chambrant un petit peu, on dit que tu as des têtes de Turc, on le sait, Zach Taylor, et on parle de Matt Rhule. Alors voilà, je te donne l'occasion de te défendre, mais surtout de parler un petit peu de ce début de saison de Matt Rhule, qui vient, c'est sa deuxième saison, lui qui venait de la NCAA. C'est plutôt positif pour lui aussi, même si encore une fois il va perdre McCaffrey, ce qui va forcément réduire un petit peu les possibilités, notamment au niveau du playbook.
Alors juste que je précise, hein, en l'occurrence, bon, Zach Taylor, c'est vrai que c'est ses décisions un peu à la Greg Schiano, mais qui m'embête un peu, c'est le côté vouloir trancher dans le vif et on se rend compte au final que ça change pas grand chose. Juste pour contextualiser, je suis plus rassuré par Matt Rhule que par un Cliff Kingsbury, par exemple. Si on prend deux anciens head coach NCAA qui ont été propulsés en tant que head coach NFL, Kingsbury, bon, voilà, ça, on le dit, on le répète, ça a souvent été un coach, ça a principalement été un coach engagé pour le côté spectacle, ce qui réussit à mon sens à l'heure actuelle. Mais on voit que pour l'instant, la marge des playoffs n'arrive pas encore à être franchie. Donc là, très clairement, avec l'effectif qu'il a aujourd'hui, ça devrait remonter. Je ne doute absolument pas des capacités de Matt Rhule, qui est un coach, je pense, extrêmement rigoureux. Je pense qu'il a une vision d'une franchise un peu à la Belichick, c'est-à-dire que voilà, tout doit être, enfin voilà, c'est vraiment de la discipline et tout bien cadré. Après, voilà, le problème c'est qu'encore une fois, il n'a peut-être pas cette expérience, cette gestion des grands rendez-vous. Et moi, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est que malgré toutes les bonnes choses qu'il a fait en college football et malgré toutes les bonnes, on va dire malgré tous les points qu'il va pouvoir surveiller, optimiser de la part de ses joueurs, voilà, il y a peut-être des prises de décision où il risque d'être un peu pris de court, pris par l'émotion. Et voilà, son parcours en college football lui a pas permis de se retrouver dans des situations où il y a ce degré-là de stress, d'hémoglobine, si je peux parler ainsi. Et voilà, c'est plus ça qui, moi, m'inquiète. Après, encore une fois, en tant que tel, je critique pas le technicien Matt Rhule. C'est vraiment juste, voilà, c'est peut-être, ça me paraissait un peu prématuré quand il a été engagé par les Panthers. C'est ça qui m'inquiète encore un peu. Pour l'instant, on attendra de voir, hein, mais ouais, sinon, voilà, je respecte totalement le technicien et je suis plus préoccupé notamment par Kingsbury, ou qui, je le rappelle, a été embauché comme head coach NFL après avoir été viré en college football par un programme relativement moyen, en tout cas de milieu de panier, quoi.
Bien, la transition est toute trouvée, c'est parfait, puisque cette semaine, on doit parler des coachs en danger. Matt Rhule, juste avant de détailler exactement, voilà, j'ai plusieurs catégories, j'en ai une qui est en sécurité. Pour moi, Matt Rhule, il est en sécurité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et d'ailleurs, Cliff Kingsbury, il n'est pas en sécurité pour moi, il est juste en dessous. Voilà, je ne vous spoil pas, on va aborder. Mais en effet, pour moi, Matt Rhule est juste un petit peu au-dessus en termes de sécurité de poste par rapport au coach des Cardinals. Messieurs, dames, on a certainement perdu Greg.
Ouais, bah ça me paraît pas mal en l'occurrence. C'est ce que j'aurais dit. Ouais.
Mais
Ah,
voilà.
tu m'entends plus?
Ouais, c'est bon, Greg. On
Que tu
est...
m'entends, Lucas?
Bien sûr,
Ah.
bien sûr. On entend toujours. Encore une fois, c'est le fauteuil. C'est plusieurs fauteuils en même temps, même, hein, puisqu'on est à différents endroits. Alors, vos questions, est-ce que vous avez un petit peu des questions? On pose beaucoup de questions à Greg. Personne ne t'a posé la question de savoir si tu arrives à citer les 32 tackles droits de NFL. Je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu. Oui, Greg, dis-moi tout.
Ça me rassure. Ouais, non, je suis désolé, je vais devoir filer juste, voilà,
Il n'y a pas de
je
souci.
pourrais commencer à s'inquiéter, je pense.
Bah oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais enchaîner moi sur mes petits coachs. Greg, bon courage, bon match face aux Giants pour les Falcons. Bonne troisième semaine de NFL. Et puis on se retrouve très bientôt, Greg.
Ça marche, on fait comme ça avec plaisir. À la prochaine, Lucas. Bonne soirée à tous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Voilà, messieurs, dames, je suis déçu, hein. Greg nous a quittés, personne ne lui a posé cette question. Voilà, je faisais une petite fixette, mais j'étais sûr qu'il était capable de les citer. Bon, alors, on a parlé des coachs. Greg, il vient de finir sur Matt Rhule, Zach Taylor. C'est le thème du jour, vous l'avez vu, les coachs qui sont en danger. Alors, j'ai pris les 32 coachs NFL et je les ai rangés dans plusieurs catégories. Et puis, on va pouvoir en parler ensemble. Voilà, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Il y a donc une, deux, trois, quatre, cinq catégories au niveau des coachs. La première, c'est les intouchables. On va commencer par celle-là. Il n'y aura pas beaucoup de débats, je pense. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup de discussions. Bill Belichick, Mike Tomlin, John Harbaugh, Andy Reid, Sean McVay, Bruce Arians, Sean Payton, Pete Carroll et Kyle Shanahan. Voilà, la plupart, voilà. Les intouchables, pour moi, ce sont des coachs qui ne se feront pas virer tant qu'ils décideront pas de partir, même si il y a une mauvaise saison ou il y a un petit accident de parcours. Bon, ben, pour ce qui est de Bill Belichick, Andy Reid, Bruce Arians, Sean Payton, Pete Carroll, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Alors après, je vois, on me pose la question, est-ce que Mike Tomlin est en danger ? Bah, du coup, Gus MMA qui me pose cette question. Du coup, non, je trouve qu'il n'est pas en danger. Dans le sens où ça fait très longtemps qu'il est là, il est installé, il arrive à tirer quand même le meilleur de son équipe. L'année dernière, il commence quand même à 11-0. Alors, c'est un peu plus compliqué, notamment arriver au play-off, arriver en fin de saison, mais il y a les blessures qui ne l'aident pas forcément. Oui, certes, certains autres coachs, on pourrait avoir du mal avec les blessures et on pourrait leur reprocher les blessures, en tout cas leur faire payer les blessures. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour Mike Tomlin. Il fait quand même un bon début de saison là. Alors oui, il y a des problèmes avec l'attaque. Il est peut-être un petit peu limité avec ce que peut faire aussi Big Ben. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit intouchable. J'ai peut-être exagéré. Je le pense en tout cas en sécurité. Ensuite, j'ai Kyle Shanahan. Peut-être c'est là aussi, il peut y avoir un débat. Mais je pense que Kyle Shanahan est intouchable. Voilà, il fait une apparition au Super Bowl. L'année dernière, c'est plus compliqué parce qu'il y a les blessures. Et justement, il fait partie de ses coachs pour moi, à qui on ne reproche pas ou à qui on ne fait pas payer les blessures. Et puis derrière, ben voilà, Pete Carroll, Sean Payton. Voilà, dites-moi dans le chat si il y a des choses qui vous choquent. Mais on parle de McDermott. J'ai vu passer aussi. Alors attendez, j'ai vu John Gruden, McDermott. Photo Biedo, hello. C'est Lucas qui présente. Oui, c'est moi qui présente. Gruden sauve sa tête pour l'instant. Ben écoutez, les McDermott, John Gruden, ils sont juste en dessous. Ils sont même pas. Alors en dessous, j'ai en sécurité. En dessous, j'ai des coachs qui sont en sécurité, qui ne sont pas forcément intouchables parce qu'ils n'ont pas la carrure ou en tout cas l'expérience ou le passé d'un Bruce Arians ou d'un Andy Reid ou d'un Bill Belichick, mais qui sont quand même en sécurité, qui ne devraient pas y arriver grand-chose. J'en ai 11. Et j'ai donc McDermott, Stefanski, voilà. C'est Floki24 qui me pose la question pour Stefanski. Il est élu coach de l'année, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Oui, j'aurais pu le mettre du côté des intouchables, mais il n'est pas encore assez installé, je pense, du côté de Cleveland pour être véritablement intouchable. Je pense qu'il est loin de se faire virer et que même s'il fait une saison compliquée, même s'il ne se qualifie pas en play-off, je ne pense pas qu'il sera viré. Mais voilà, je le considérerais plus, allez, le cran juste en dessous, en sécurité, tout comme McDermott, qui fait une finale de conf l'année dernière, qui arrive à tirer le meilleur de son équipe. Mais voilà, je ne le considère pas comme intouchable parce que ce sont des coachs qui ne sont pas là non plus depuis, on va dire, assez longtemps. Donc, je les considère comme en sécurité. Ensuite, j'ai... Alors après, voilà, ce sont les deux coachs que j'ai mis là. Et j'ai pris le parti de mettre des coachs rookies, en tout cas des coachs qui font leur première année dans leur équipe. Robert Saleh, donc Brandon Staley, Urban Meyer, David Kelly, Arthur Smith, Nick Sirianni, Dan Campbell. Et ensuite, ce sont tous les coachs qui font leur première année avec leurs équipes. Je les ai mis dans la catégorie en sécurité parce que il est très rare qu'un entraîneur se fasse virer après seulement une saison. Quand même, on laisse quand même un petit peu. Alors, on n'a pas beaucoup de temps en NFL, notamment les propriétaires, mais c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas. Ça arrive, bien sûr. Et si ça devait arriver à un, ben peut-être Urban Meyer, peut-être David Kelley. Alors, pour des raisons différentes. Urban Meyer, on parlait dans le chat d'une erreur de casting. C'est un petit peu tôt pour le décider. Il est avec un Trevor Lawrence qui doit aussi s'acclimater. Il est avec une équipe assez jeune. Voilà, maintenant, il ne faut pas qu'il finisse sans aucune victoire. Il faut qu'il montre quand même qu'il est capable de faire progresser cette équipe. Mais j'ai du mal à le voir se faire éliminer, se faire virer dès la première saison parce que ça enverrait un message vraiment très négatif. Donc voilà, je l'ai mis en sécurité, mais c'est peut-être le seul avec donc David Kelley. À Houston, on en parlait. Il fait des belles choses, David Kelley. Lui, si je voyais une petite chose qui pourrait le faire éjecter de son poste du côté de Houston, c'est l'atmosphère autour de cette franchise avec des propriétaires qui sont habitués à faire des choses, on va dire, bizarre. Avec peut-être le désir l'année prochaine de repartir de nouveau totalement neuf, avec un choix de draft qui va être relativement haut. On ne sait pas ce qui va se passer avec Deshaun Watson. Donc voilà, ça serait peut-être la seule chose qui ferait que David Kelley se fasse éjecter lui aussi. Mais encore une fois, c'est quand même rare un coach NFL qui se fait virer au bout d'une saison. Donc j'ai décidé de les mettre du côté des coachs en sécurité. Et j'ai mis aussi Ron Rivera, qui pour moi est en sécurité du côté de Washington. Il se qualifie en playoff l'année dernière. Il a de l'expérience. Il a un quarterback qui se blesse dès le début. Il va devoir faire avec Tyler Heinicke. Il ne va pas être loin encore une fois des playoffs parce que cette division n'est pas forcément très élevée. Donc je pense que pour moi, il est en sécurité. Tout comme Matt Rhule. Alors c'est un peu biaisé aussi peut-être parce qu'on a un 3-0 du côté de Carolina et que peut-être qu'au début de la saison, j'aurais pas dit tout à fait ça. Mais bon, voilà, Matt Rhule, c'est sa deuxième saison. On a l'impression qu'il fait progresser, notamment sa défense. Donc je l'estime en sécurité. Bon, et on en parle de Frank Reich, photo Bayedo. Eh bien, ça arrive juste en dessous, donc ça me permet une magnifique transition. Matt Nagy, il va arriver plus tard. On descend, là, vous l'avez compris. On parle des coachs qui, d'abord, n'ont rien à craindre et on va descendre petit à petit. Danger possible, c'est la catégorie qui est juste en dessous, le danger possible. Alors, pour définir danger possible, ce sont des coachs qui ne sont pas encore vraiment en danger, mais ça pourrait tourner mal pour eux. Et j'ai donc Cliff Kingsbury, du côté des Cardinals, Frank Reich, John Gruden et Mike Vrabel. Alors, Kingsbury, on en a parlé, ça part bien, mais c'est vrai que si, de nouveau, il ne fait pas les playoffs, ça pourrait être compliqué pour lui. Alors, je les ai mis dans danger possible parce que c'est bien parti et que Kyler Murray est en train de faire du beau boulot. Donc, s'il se qualifie en playoffs, il n'y aura pas de souci, je pense, peu importe le résultat, mais attention. Puis ensuite, Frank Reich, Mike Vrabel, pour moi, c'est à peu près la même chose. Ce sont des équipes dans une division qui n'est pas forcément très élevée, des équipes qui ont des ambitions de play-off, des coachs qui sont là quand même depuis quelques années. Alors, je n'ai pas en tête exactement depuis combien de temps Frank Reich et Mike Vrabel sont là, mais voilà, ils n'en sont pas à leur coup, à leur première année. Il faut quelque chose qui donne envie de les voir l'année prochaine. Donc, mais en même temps, ils ont fait quand même de belles saisons. Les Titans l'année dernière font une belle saison. Les Colts, bon, avec Rivers, c'était un peu plus compliqué, mais il y a de belles choses. Donc, ils sont du côté des dangers possibles pour moi. Et puis j'ai mis John Gruden. Pareil, j'ai essayé de ne pas être biaisé par le début de saison des Raiders, qui sont à 2-0, qui pourraient finir à 3-0, ils jouent les Dolphins. Mais voilà, il a eu un contrat de 10 ans. 10 ans, c'est très long en NFL. On a tous levé les yeux au ciel, ou en tout cas, on a tous levé les sourcils d'interrogation quand on a vu une signature de 10 ans du côté de John Gruden. Ça fait déjà quelques années qu'il est là, lui aussi. Voilà, les Raiders ont l'air de progresser, mais il va falloir se qualifier en playoff cette année. C'est bien parti, mais il va falloir se qualifier en playoff. C'est pour ça que je l'ai mis dans danger possible, parce que imaginons que cette équipe ne se qualifie pas en playoff en coulant complètement en fin de saison, en tout cas en ne remontrant pas ce qu'ils ont montré depuis les deux premières semaines. Ça pourrait être compliqué pour John Gruden. Pour l'instant, il n'est pas forcément en danger, mais le danger est possible. Et on arrive là à des coachs qui commencent à avoir, en anglais, forcément, ils disent le siège est chaud. Le siège chaud. Donc là, on arrive sur des coachs qui commencent à avoir le siège un peu chaud. Donc, la catégorie juste avant la dernière, c'est le danger proche. Là, j'ai 5 coachs. J'ai Brian Flores, Zach Taylor, Matt LaFleur, Mike Zimmer et Vic Fangio. Alors, Alors, Zach Taylor, on en parle aussi. C'est un coach qui est arrivé il y a peu. Et hop, un petit taquet pour les Dolphins au passage. Pour ce qui est des Raiders, je suppose, bof bof 2004, les Raiders sont quand même favoris pour l'instant face aux Dolphins ce soir. Après, il peut se passer plein de choses, mais bon, ils sont quand même favoris. Je reviens donc au danger proche. Donc, Brian Flores. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que tu parlais du taquet. Brian Flores, l'année dernière, il qualifie quasiment son équipe en playoff. Il chute à la dernière journée, il prend une rousse face aux Bills. Là, cette année, on attend à ce qu'ils soient en play-off. C'est l'objectif. S'il ne l'est pas, ça peut commencer à être compliqué pour Brian Flores. Mike Zimmer, Vic Fangio sont des coachs qui sont là depuis un moment. Et pour moi, c'est peut-être des front office qui peuvent décider si la saison ne se passe pas exactement comme possible. Alors, objectif playoff ou pas, je ne sais pas pour ces deux équipes-là, mais qui peuvent décider d'un renouveau, d'un changement de cycle. Voilà. Pour moi, ce sont deux coachs qui sont un petit peu ce sont deux coachs défensifs qui sont un petit peu dans le même moule. Voilà, ils sont là depuis longtemps. Et ils pourraient subir l'envie d'un renouveau, d'un changement de cycle comme certaines équipes l'ont fait il y a quelques temps. Donc voilà, je les mets dans cette catégorie-là. Et ensuite, il y a Matt LaFleur. Alors, on va me dire, Matt LaFleur, c'est un coach qui a fait deux finales de conférences d'affilée. C'est rare qu'un coach soit en danger quand il sort un CV comme celui-là. Mais je l'ai mis dans cette catégorie, Matt LaFleur, uniquement parce que l'atmosphère qu'il y a autour, l'imbroglio avec Aaron Rodgers en début de saison, voilà. On ne sait pas comment ça va tourner, on ne sait pas comment la saison va se passer, mais si ça se passait mal du côté des Packers, et surtout si ça se passait mal avec Aaron Rodgers, on pourrait tomber dans une situation où le front office décide de choisir entre Matt LaFleur et Aaron Rodgers, et pourrait décider de partir avec le quarterback. Voilà, je fais du football fiction, mais c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, tu es sévère sur Flores. Rafa Malka, moi, j'aime beaucoup Flores, je dois le dire. C'est un coach que, quand il est arrivé à Miami, je trouve qu'il a fait progresser de suite son équipe, qui leur a donné une belle progression d'entrée. Il a progressé entre l'année 1 et l'année 2. Maintenant, il va falloir progresser entre l'année 2 et l'année 3. Et pour l'instant, c'est plus compliqué, j'ai l'impression. Ils ont fait le pari de choisir Tua. Malheureusement, on a vu que ce n'était pas encore tout à fait ça en termes de niveau de jeu. Et surtout, il a l'air assez fragile. Donc, sévère, je ne sais pas. Après, il pourrait très bien se qualifier en play-off et rester et faire une... Mais en tout cas, la qualification en play-off, je pense pour moi, sera une condition, si ce n'est sine qua non, mais une vraie condition à la prolongation, en tout cas à Brian Flores, qui devrait rester l'année prochaine, je pense. Tu as raison pour la fleur. Ben, merci, écoute. Rodgers quittera les Packers en fin de saison. Jurisprudence, Brady, Cyril Sonic. C'est possible. J'ai beaucoup de mal à savoir ce qui va se passer avec Rodgers, mais c'est aussi pour ça que j'ai mis Matt LaFleur dans cette catégorie. Et enfin, le danger immédiat. Alors, j'en ai que trois, mais pour moi, ce sont des coachs qui pourraient même se faire virer en milieu de saison. Alors, pour moi, il y a Joe Judge, Matt Nagy. Je pense que je ne vous spoil rien. Vous avez vu l'image sur le fauteuil. Et enfin, Mike McCarthy, le dernier coach qui restait. Du côté de Joe Judge et de Matt Nagy, Joe Judge, au niveau des Giants, c'est compliqué. On l'a vu. Alors, c'était un petit peu mieux jeudi dernier. Greg en a parlé. Mais maintenant, il va falloir continuer. Alors, c'est aussi un petit peu indexé aux performances de Daniel Jones. Il faut que ce quarterback soit un peu meilleur. Il faut qu'il fasse un petit peu ce qu'il a fait jeudi dernier. Maintenant, sera-t-il capable de le faire sur la durée? Voilà. Si c'est compliqué du côté des Giants, s'ils refont une saison en demi-teinte, ce qui a l'air de se passer quand même, voire même une saison en demi-teinte, je suis gentil, voire même une mauvaise saison, je ne serais pas étonné que Joe Judge se fasse virer au milieu de saison, tout comme Matt Nagy du côté de Chicago. C'est pour moi un coach qui est véritablement en danger parce que les Bears, voilà, ils font les playoffs l'année dernière. Ça passe d'ailleurs un petit peu inaperçu, on est obligé de le rappeler à chaque fois qu'on en parle. Mais je pense que c'est un coach qui peut être véritablement en danger. Photo de Bayedo, Matt Nagy est mort dans le film. Ben oui, c'est compliqué pour Matt Nagy avec ce changement de quarterback. Voilà, après, peut-être que Justin Fields peut le sauver, mais sa gestion des quarterbacks n'a pas forcément été tout à fait claire, tout à fait limpide. Voilà, c'est aussi des choses que le front office regarde. C'est des images que renvoie à la franchise qui sont pas forcément appréciées par les gens qui dirigent. Et donc, ça pourrait lui coûter cher. Et enfin, Mike McCarthy. Bon, il est arrivé il y a pas longtemps. Mike McCarthy, c'est un coach qui a de l'expérience, qui a un CV derrière lui. Mais voilà, il est là pour moi aussi parce que c'est Dallas, parce qu'à Dallas, on n'a pas le temps. Ils ont une équipe pour écouter, au moins faire les playoffs, si ce n'est plus. En tout cas, je suppose que ce sont les ambitions qu'il y a à Dallas. Et je pense que si ça ne se passe pas bien du côté de Dallas, je vois mal les dirigeants des Cowboys avoir de la patience. Ce n'est pas forcément ce qu'ils nous ont montré depuis quelques années. Donc voilà, pour moi, ils vont. Si ça se passe très mal, McCarthy est en danger. Voilà. Joe Judge a signé un gros contrat. Oui, ils ont signé un gros contrat. Ce sont le genre de choses qu'il faut prendre en compte, en effet. Maintenant, si ça se passe mal et que l'équipe ne progresse pas, comme le dit Cyril Sonic du côté des Bears, voilà, on préfère virer un coach et en prendre un autre pour essayer de faire progresser l'équipe. Voilà, c'était ce classement, ce bon petit classement du côté des coachs. Je vois que ça fait débat. Sean Payton, je crois qu'on m'a parlé de Sean Payton. Urban Meyer, ben, je l'ai mis Clément Vernetui, je l'ai mis du côté des coachs en sécurité, comme je l'ai dit, parce qu'il est là que depuis un an. En tout cas, c'est sa première saison et que je vois mal les équipes NFL virer un coach depuis un an. Ça, c'est déjà fait, je le répète. C'est quand même relativement rare. On laisse un tout petit peu de temps, même si on n'en a pas beaucoup. Donc, je l'ai mis en sécurité. McCarthy, j'y crois pas en milieu de saison. Non, peut-être pas en milieu de saison, parce que Dallas est dans une division où ils vont avoir l'espoir des playoffs. Si ça se passe mal, bien entendu, si ça se passe bien, il sera sauvé. Mais si ça se passe mal, même si ça se passe pas très bien, Dallas aura l'occasion de se qualifier en playoffs, même jusque dans les dernières journées, parce que la division est pas forcément très bien. Donc, en milieu de saison, je suis assez d'accord avec toi, Baptiste Louche. McCarthy, je le vois pas se faire virer. Par contre, je serais pas surpris que si Dallas fait pas les playoffs, McCarthy soit éliminé. Nagy est le plus en danger pour moi. Oui, ben je suis assez d'accord, c'est le plus en danger. Tass Welder, vidéo échec. Voilà. On a Tofi qui me dit Vrabel. Ben Vrabel, je l'ai mis, je le répète, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans les dangers possibles, parce que c'est il n'est pas encore forcément en danger, parce que voilà, il a fait les playoffs l'année dernière, mais si ça se passe mal du côté des Titans, ça pourrait être compliqué pour lui, ouais. Chez les Giants, je pense que Garrett sera le premier associé et Judge encore une saison. Oui, forcément, l'attaque sera pointée du doigt, mais voilà, on pourrait décider aussi de refaire avec un tout nouveau coaching staff. Donc voilà, bien sûr, on parle de football fiction, hein, ou en tout cas, on essaye d'anticiper. Garder meilleur toute la saison, c'est le meilleur moyen de flinguer Lawrence. Il apporte une atmosphère toxique au développement du rookie. C'est sûr que depuis quelques semaines, ce n'est pas forcément de la sérénité qu'il a montré. Et quand on a un quarterback rookie, en effet, la sérénité, c'est quand même quelque chose qui est importante. Alain Mattei, son remplaçant, est pas mal. Yannick Lebouteille, écoute, merci. Voilà, Alain Mattei, je l'ai mis dans intouchable. Hein. En termes de coach, je l'ai mis dans intouchable. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais écoutez, voilà. Bon, eh bien, messieurs, dames, un petit indice pour le joueur mystère. On a fini avec les coachs. Parce que moi, si vous me laissez, je vous parle jusqu'à 22h, mais à 19h, on a des matchs quand même à regarder. On a une superbe semaine 3. J'ai encore pas mal de choses à vous dire. J'ai un indice pour le joueur mystère à vous donner. Je vous rappelle rapidement, joueur mystère, concours at touchdownactu.com. Les trois indices que je vous ai donnés, c'est un titre de champion, un titre de All-Pro, une sélection All-Pro, le chiffre 6, Karim Abdul-Jabbar, c'était l'indice de tout à l'heure. Et le dernier indice pour aujourd'hui, ça sera Air Force One. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Même moi, je ne sais pas qui c'est. Je vous donne juste les indices que j'ai. Aucune idée de qui c'est. Ce que je peux vous dire, voilà, vous ne le direz pas à Alain, je vous donne un autre indice. C'est pas Tom Brady. Voilà, c'est pas Tom Brady. J'ai checké. Il a un peu plus qu'un titre. Donc, c'est pas lui. Vous pouvez l'éliminer. Dites pas à Alain que je vous ai donné un indice en plus, parce que sinon, voilà. Et n'oubliez pas le pseudo Unibet, parce que tout ça, c'est pour avoir des free bets. N'oubliez pas de mettre votre pseudo Unibet dans le mail. Les pronos, bien sûr, bah les pronos, bof bof 2004, on y arrive rapidement. Putain, il me reste que. Oula, je dis des gros mots en plus, c'est pas bien. Les pronos du jour. Donc, je vous fais rapidement. Avant toute chose, je vous donne les pronos, je vais vous donner les cotes aussi. Ce que je dois vous dire, c'est très important. Je suis dernier au niveau des pronos Touchdown Actu. Voilà. Je vous le dis, comme ça, pas de réclamation, je suis dernier. Donc, je vous donne les pronos, mais ne prenez pas ça vraiment en compte. Colts Titans, j'ai mis les Titans. Falcons Giants, Falcons pour moi. Il y a quelques matchs dans la rédaction qui ont fait débat. Falcons Giants, pour l'instant, je crois que pas mal de gens ont mis les Falcons, sauf Greg, qui s'oblige à parier contre, en tout cas, à sélectionner l'équipe qui a contre les Falcons. Chargers Chiefs, les Chiefs. Bengals Steelers, les Steelers, même sans TJ Watt pour moi. Bears Browns, les Browns. Ravens Lions, les Ravens. Saints Patriots, là, c'est un des matchs qui a fait débat, par exemple. J'ai tendance à dire les Patriots, mais ça peut être compliqué. Tout dépend de quelle équipe des Saints se présentera à Foxborough. On a Cardinals Jaguars, Cardinals pour moi. Washington Bills, alors voilà, là j'ai tenté quelque chose, j'ai mis Washington. Beaucoup de monde ont mis les Bills dans la rédaction, mais je pense que je tente le Washington, voilà. Il le faut, je ne suis pas forcément convaincu par l'attaque des Bills, pas forcément par la défense de Washington, mais je me dis que c'est peut-être le match pour revenir. Jets Broncos, les Broncos. Dolphins Raiders, j'en ai parlé, les Raiders. Seahawks Vikings, encore un match qui fait débat. J'ai mis les Vikings du côté des Seahawks, je vois un match avec beaucoup de points. Et allez, je vais dire que ça peut tourner du côté de Minnesota pour une fois. L'indice de la semaine, tu as zappé. Il y en a deux, je les répète très rapidement. Kareem Abdul-Jabbar et Air Force One. Voilà. Je répondais à des Chargers. Ensuite, Bucks-Rams, là aussi un match très important et très spectaculaire, on l'espère, à 22h. J'espère que vous allez rester réveillés. J'ai mis les Bucks pour ma part. Packers 49ers, le Sunday Night Football, ce sera les 49ers pour moi. Et Eagles Cowboys, le dernier match du week-end, les Cowboys. Voilà, j'ai fait ça rapidement. Comme je vous l'ai dit, je suis dernier des pronos, donc bon, vous pouvez passer ce petit moment. Je ne suis pas sûr que ça soit très, très utile. Les meilleurs coachs Unibet, avant de terminer, rapidement. Voilà, encore une fois, hein, je répète, je suis dernier au niveau des pronos, donc ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Mais je vais quand même vous donner un petit combiné. Alors, je n'ai pas l'ardoise comme Alain. Malheureusement, je suis désolé, hein, il manque de moyens de mon côté, mais je vais donner un peu les pronos. Patriots à domicile, je vous ai dit 1,61, ça se joue, je pense que ça se tente. Les Steelers qui jouent face aux Bengals, 1,63. Et les Buccaneers qui jouent face aux Rams, 1,83. Voilà, alors pour ce match Buccaneers-Rams, j'ai regardé les cotes, elles sont 1,83 et 1,81 pour les Rams. C'est-à-dire que même les parieurs ne savent pas. Je vous le dis, même les gens qui font les cotes, ils ne savent pas. Donc, ils mettent 1,83, 1,81. C'est un match à jouer, généralement, parce que ça veut dire que c'est quasiment du 50-50. Donc, voilà, pour ma part, je mets les Bucks, mais vous pouvez tenter, les Rams. Mais en tout cas, je mets les Bucks. Donc, je vous ai dit 1,61, 1,63, 1,83. Patriots, Steelers, Buccaneers. Pour 5 euros, vous avez 24 euros. Ce qui est quand même pas négligeable. Une cote à 4,80. Et ensuite, je sais que vous aimez bien ça. Je sais que ça peut vous faire plaisir. Un petit combiné YOLO. Alors là, encore une fois, voilà, tentez si vous en avez envie. Je vous le dis comme ça, mais Washington, je vous en ai parlé, la grosse cote de ce week-end, 3,55 face aux Bills. Pourquoi pas, ça se tente. Les Vikings face aux Seahawks, 2,02. Et les Falcons, 2,15. Cote intéressante face aux Giants. Ils ne sont pas favoris face aux Giants, peut-être parce qu'ils sont à l'extérieur, 2,15. Donc voilà, là, si vous avez vu, ça va faire un gros combiné. Je vous le répète, Washington, 3,55. Vikings 2,02 et Falcons 2,15. Pour 5 euros, vous prenez 77 euros. Voilà, une cote à 15,42. Voilà, bon. C'est le combiné, c'est le pari YOLO de la semaine. Bon, écoutez, on va voir. Encore une fois, je vous le répète, je suis dernier des pronos. Bon, messieurs, dames, il est moins 5. C'est bientôt le moment de vous quitter. Juste un petit mot. Bah forcément, n'hésitez pas, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Camille nous a mis le petit lien en début de retransmission si vous voulez nous soutenir sur Tipeee. Les réseaux sociaux aussi, forcément, sur Twitter, @TDAQ. Sur Facebook, TDAQ tout simplement. Je suis obligé de lire. Hein. Et sur Insta, TouchdownActu. Voilà. Donc, n'hésitez pas. On va vivre une superbe troisième semaine. Pour ma part, donc, sur Twitter, je voulais vous dire, si vous avez aimé et que si vous espérez ou vous voulez ou vous souhaitez que je fasse le fauteuil une semaine sur deux, par exemple, hein, semaine A, semaine B avec Alain, c'est @elvola. Voilà. Si vous n'avez pas aimé et vous vous dites, mais qui c'est ce mec? On préfère Alain. Voilà, il nous a embêté pendant une heure. Là, c'est @lucavola. Voilà. La précision est très importante. C'est un compte Twitter qui n'existe pas, hein, forcément, mais au moins je ne verrai pas ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, messieurs, dames, bah, écoutez, je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir pour aller aux toilettes vite fait avant d'attaquer sur le red zone, d'attaquer sur les matchs. On a encore une superbe semaine. Bah, écoutez, j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que la semaine prochaine, vous retrouverez Alain et vous le retrouverez avec plaisir. N'hésitez pas à lui faire une petite standing ovation. Pour ma part, on se retrouve mardi et comme toutes les semaines, hein, rappelez-vous, mardi le débrief, jeudi la preview de la semaine 4. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié le remplaçant. Je ne sais pas si je vais rendre les clés à Alain. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à Camille qui a encore une fois été magnifique. Et puis, je vous dis bon match.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.